Juste déjà pour commencer, je ne vais rien vous montrer ce matin, désolé. Déjà parce que souvent, quand on montre quelque chose, on montre ce qui marche. Et puis dans le domaine de la restauration des milieux, dans le domaine des prairies déjà chères fleuries, ben, y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Donc, première raison. La deuxième raison, ben, je suis rentré très tard dans le jeu, hein, la semaine dernière, donc un peu à l'arrache. Donc, j'ai pas eu le temps de vous faire un beau PowerPoint. Et puis, troisième raison, allez, on y va. Ben, j'ai rien à vendre. Hein. J'ai juste à vous faire un petit peu, comment dire, une présentation de ce que j'ai vécu et que je continue à vivre et que j'espère que j'ai encore dans quelques années. Donc, dans le domaine de restauration écologique et maintenant de jachère fleurie, puisque maintenant je me mets aussi à travailler sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est ça, c'est bien de vous faire partager un petit peu mon expérience, ce que j'ai vécu, et puis justement, complètement pour emboîter dans la précédente intervention, ce qui peut peut-être servir à d'autres pour la suite, justement, comment organiser justement tous ces projets liés à cette notion entre le vouloir et le pouvoir, c'est-à-dire avoir envie de travailler sur le matériel local, mais jusqu'à quelle marge de manœuvre on peut avoir pour ce type de travail. Alors, d'où ça vient? Ça vient de 25 ans. Hein. Ça fait 25 ans. Eh oui, on rajeunit pas. 25 ans que je travaille et avec certains, ben, comme Patrick, ça fait une vingtaine d'années qu'on doit se croiser sur ce sujet. Vous, c'est pareil. Sur le sujet. Donc d'abord, j'ai commencé par la restauration des milieux, donc les milieux remaniés, notamment avec ASF. ASF, c'est 26 maintenant, donc c'est pas des poètes. Hein. C'est des milliers d'hectares qui sont retournés depuis des années. Et le dernier projet en date, qui est celui de la 89 dans la région de Lyon, ce sont des centaines d'hectares donc de terrain remanié qu'il va falloir ensuite, disons, aller cicatriser d'un point de vue paysager et s'efforcer de faire de la restauration des milieux également, parce que bon, même si c'est pas des poètes, ça veut pas dire qu'ils font n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Donc il y avait cet enjeu-là, et quand on dit des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, ça veut dire des dizaines, voire des centaines de tonnes de graines qui ont été déversées depuis donc quelques décennies sur ces terrains-là. Donc c'est vraiment en termes de quantité, donc d'enjeux et de potentiel, c'est considérable. Hein. Et puis comme ASF a pris le train déjà cher fleuri, débarque depuis 2009 sur ce sujet-là. Mais pareil, quand ASF commence à parler d'expérimentation, c'est pas 3 mètres carrés, allez, zou, 10 hectares en 2009, 10 hectares en 2010, et vas-y cocotte. Avec une logique quand même aussi de ne pas toujours obligatoirement faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et donc de réfléchir avec du matériel espèce sauvage. Donc, je fais d'abord, je parle pas d'espèce locale, je parle d'espèce sauvage. Juste pour finir, là l'histoire d'ASF, c'est peut-être un décalage apparent avec vos préoccupations, je crois pas. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a bien senti, il y a un discours un petit peu sur la biodiversité, et notamment un discours commercial actuellement sur la biodiversité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc chacun s'emboîte là-dedans, y compris les utilisateurs déjà chers fleuris. Il y a des potentialités de filière économique. On a combien? 4 semenciers ici, c'est pas négligeable. 4 semenciers, ça veut dire qu'il y a bien un potentiel. Sinon, des gens qui ont quelque chose, et fort logiquement, à vendre, ne seraient pas aussi nombreux autour de la table. Mais il y a nécessité d'y avoir une crédibilité de cette filière économique. Donc, crédibilité de la part des semenciers et des producteurs de semences, mais aussi crédibilité de vous dans votre discours, finalement, ou bien d'aménageurs, ou bien de collectivités locales, quand on commence à parler d'espèces locales, de semences locales et de biodiversité. Donc, effectivement, moi je viens d'une grosse cavalerie, hein, comme je disais, la cavalerie ASF, mais bon, on peut décliner les échelles. Donc, arrivons, parce que je pense qu'il va falloir faire assez vite, espèces sauvages. Bon, moi je suis aménageur, je vous l'ai dit tout à l'heure, et un aménageur, point de départ quand même, quand il a aménagé et qu'il a une commande de la part d'un client, c'est que ça marche. Sinon, il se fait lourdement jeter. Donc, pour que ça marche, comment ça a fonctionné d'abord, je vais prendre plutôt le cas de la restauration des milieux. L'idée de départ, c'était comme on bouleversait des milieux, on allait voir finalement demander conseil à la nature. Donc, pour se dire, bon, puisque sur des milieux analogues à ceux qu'on va créer, par exemple des milieux rocailleux, des choses de ce style en région méditerranéenne, où il y a peu de sol, il y a des espèces sauvages qui poussent spontanément dans ces milieux-là, on va aller voir, ce qui pousse, et à ce moment-là, l'idée, c'est d'aller remettre ce qui pousse à côté, finalement à quelques dizaines de mètres là, spontanément, c'est d'aller remettre les mêmes espèces dans ces nouveaux milieux. Donc ça, c'est vraiment c'est cette sorte de transposition. Parce qu'il y en aurait une autre solution qui avait été envisagée, que certains continuent à donner, c'est de dire, mais laissez faire la nature, puisque de toute façon, les espèces, il y aura les effets de lisière, et ainsi de suite, ça reviendra tout seul. Dans certaines régions, la dynamique végétale est telle que ça peut éventuellement se faire. Dans des régions plus difficiles comme la nôtre, allez expliquer ça à un riverain, vous risquez de prendre la fourche si vous lui dites, que ça va prendre 20 ou 25 ans pour qu'il y ait une cicatrisation, il ne va peut-être pas être franchement content si on lui a bousillé son milieu juste à côté. Donc, cette idée d'accélérer le processus de la nature. Vous voyez, on est un petit peu différent de la jachère théorie, mais c'est la méthode de travail qui compte. Donc, c'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte parce qu'on a un discours à la limite sémantique où on dit d'espèce sauvage, on va passer à espèce locale. Hein, donc on est à l'espèce locale puisqu'elle est juste à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres là. Mais là où ça se gâte, c'est bon, où trouver les graines, où trouver les végétaux si on parle de pépinières. Et là, c'est, si on est sur des petites surfaces, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure de dire d'expériences où on réutilise finalement l'histoire du coussous, hein, où il y a des essais en ce sens là, donc de réutiliser les graines qui sont là. Et on les remet, on fait un coup de fauche, par exemple, et on va les reposer là. Bon, quelques dizaines, quelques centaines, voire un hectare, ça c'est faisable. Mais quand on commence à parler de dizaines d'hectares ou de centaines d'hectares, et quand on commence à parler de filières commerciales, là c'est plus possible de raisonner de cette façon-là. Donc on a un hiatus à ce moment-là sur la technique. Et c'est pas nouveau. Au 19e siècle, là, quand ils ont commencé à faire les restaurations des terrains qui avaient été dégradés par le surpâturage, il y avait un type qui s'appelait Mathieu, qui avait été désigné, c'était à l'époque de Napoléon III. On lui avait dit, toi, mon bonhomme, c'était dans les Hautes-Alpes, je crois, dans ce secteur-là, tu vas nous remettre en état, un petit peu hein, comme ce qui a été fait après à l'Égoile, tu vas nous remettre en état les zones qui ont été surpâturées. Mais là, à partir de semences, pas à partir de plantations comme ça a été fait sur les Gouins. Et le type, il s'est posé exactement ces questions-là. Et en fait, il était parti, ils avaient essayé ce système de remettre par système de finalement un peu de fond de grange, comme ça. Et après, ils étaient partis complètement sur les raisonnements que vous avez mentionnés, travailler avec les paysans du coin pour essayer de reconstituer, parce qu'il s'était trouvé confronté, lui, à cette époque-là, à ce souci de la disponibilité en graines. Il était loin de discuter d'espèces de biodiversité, de génétique, il s'en tapait complètement. Lui, ce qu'il constatait, c'était qu'il ne pouvait pas réaliser finalement ce qu'il avait à sa feuille de route. Il ne pouvait pas réaliser sa feuille de route parce qu'il n'avait pas les graines à sa disposition. Donc ça, c'est pas nouveau comme situation. Donc cette idée-là, c'est comment on va faire les cueillir, les produire, les commercialiser, c'est toutes ces questions-là. Et là, à ce moment-là, on n'est même pas encore dans le discours sur les notions de semences locales. On est seulement sur le discours de semences d'espèces sauvages ou d'espèces locales, mais pas sur la question de savoir où on va les produire. Alors, mais quand même, c'est maintenant on passe chez un autre temps où effectivement. C'est dans l'air du temps de parler de ce développement, de ces filières de production locale. Alors, petit retour en arrière, vers les années 2000, je me suis retrouvé pour le compte de l'Agence de l'eau à animer un groupe de travail, donc c'était, je ne sais plus où, à Nantes qu'on faisait ça, justement sur la mise en place d'une filière de production de végétaux. Là, c'était des végétaux locaux pour le bord de Loire, hein, la reconstitution donc des restaurations des rives de la Loire et de ses affluents, et donc de travailler justement sur la base de végétaux locaux. On était 80 autour de la table, on se réunissait régulièrement, il y avait un peu tout le monde, tous les acteurs du coin. À ça, tout le monde était d'accord. Pas de problème. Quand il s'agit de parler du végétal local, tout le monde est d'accord, il n'y a aucun souci. Hein, donc là, tout le monde applaudissait sur cet aspect-là. Mais là où ça commençait à se gâter, et là je pense que John Thompson en discutera de manière plus valide cet après-midi, c'est de savoir, bon, ok, on produit des végétaux locaux, mais le premier point, c'est qu'est-ce qu'un végétal local ? Là, c'était l'histoire des végétaux. Et alors là, ils ont commencé, moi j'étais animateur du groupe de travail, moi j'écoutais, je faisais ça, hein, tranquille. J'avais juste à faire causer les gens et dire de temps en temps, hop, hop, hop. Et les gens disputaient, donc sur la maille. À partir de quand on considère qu'un végétal est local? Alors là, on avait un petit peu tous les discours. Il y a 100 ans, moi, dans mon village, même moins de 100 ans, quand ma mère s'est mariée avec mon père, qu'ils étaient du village à côté, c'était quasiment étranger. Maintenant, la planète est quasiment un village. Donc, cette notion-là, on la voyait arriver. On la voyait arriver. Les gens n'étaient pas d'accord. On avait l'impression que ce n'était pas obligatoirement d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue, on a utilisé 2-3 fois le terme idéologique déjà ce matin à ce sujet-là. Donc ça, c'est le gros truc. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que de là, je reviendrai un peu plus tard, je ferai un retour, mais ce n'est pas anodin parce que de là arrivera évidemment la notion de faisabilité de la filière économique de production. Plus vous allez avoir une maille réduite, plus ça va être difficile évidemment d'avoir un débouché économique là-dessus. Et le point de départ quand même là-dedans, c'est la notion de validité de scientifique de cet aspect-là. Donc ça, il y a ce problème-là. Et après, évidemment, il y a aussi quelles espèces sont intéressantes justement pour être produites en tant qu'espèce sauvage locale, allez, là c'est plus facile, ou en tant que semences ou végétaux locaux. Alors, j'ai vu passer effectivement la semaine dernière, quand on s'est fait circuler les papiers, la liste d'espèces pour les jachères, les jachères fleuries. Patrick a parlé tout à l'heure de 87 avec la fameuse liste du CT, donc de 117 espèces, on y était allé. Carrément. Donc, le CETEDEX, alors c'est le Centre d'étude technique de l'équipement, je crois que ça s'appelle, donc une émanation du CETRA dont il a été question. Donc, c'était pour la restauration végétale dans le Midi, dans la région méditerranéenne. Donc, c'est des espèces sauvages qui allaient depuis des espèces qui ont, je dirais, passe-partout, comme la pimprenelle, par exemple, jusqu'à des espèces beaucoup plus ciblées, comme les badass. Donc des choses qui étaient vraiment strictement méditerranéennes. Alors comment ça s'est passé là-dessus, et Patrick l'a vécu complètement. Donc on avait notre liste d'espèces qui était d'une certaine façon, allez, on se lâche, on y va. Toutes celles qui nous paraissent intéressantes parce qu'elles sont là ou parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont très adaptées au milieu, ainsi de suite. Et comment ça s'est terminé? Par un effet d'entonnoir. Ça s'est terminé, comme a dit Patrick Bourduche, à les 15-20 espèces grand max. Pourquoi 15-20 espèces grand max? Je parle toujours espèces, je ne parle pas de production locale. J'en suis toujours que là. Pourquoi? C'était les plus efficaces déjà. L'idée, c'était les plus efficaces pour les milieux qu'on aurait à réhabiliter. On n'est pas tout à fait dans le sujet de la jachère fleurie, où là on n'est pas franchement dans une notion d'efficacité. C'était les plus faciles à cueillir. Quand je dis cueillir, c'est avoir la ressource en graines qui permettra ensuite la production, la multiplication et de ce fait faire baisser les coûts. Parce qu'on arrive donc au plus facile à produire. Alors là, j'ai des gens qui pourront aisément parler des sujets de production, qui sont beaucoup plus qualifiés que moi sur la difficulté à mettre au point des cultures, ce que tu as appelé l'itinéraire de production, c'est ça. Donc là, qui est fondamental, parce que de la difficulté ou facilité de production découle la productivité, c'est-à-dire finalement les tonnages qu'on peut obtenir, finalement les quantités, allez, on va s'arrêter aux quantités, les quantités de graines qu'on peut obtenir. De ce fait, le coût des semences, plus une semence est difficile à produire, plus elle va être chère, et donc de ce fait, évidemment, les plus faciles aussi à écouler financièrement. Et on arrive à ce moment-là au circuit de la filière économique, donc des producteurs et des semenciers. Et là, on est toujours... Vous voyez, je suis toujours pas à l'échelle du végétal local. Je n'en suis encore qu'à ne parler que d'espèces sauvages ou d'espèces locales. Toujours pas de production locale. Parce que, en fait, je vais vous prendre un exemple, vraiment, c'est l'archétype. C'est l'Aquilée millefeuille. L'Aquilée millefeuille, elle doit être à peu près dans toutes les régions tempérées méditerranéennes du monde entier. Je suppose. L'Aquilée millefeuille, c'est une espèce qui est vraiment, c'est une passe-partout, elle est capable de pousser un peu partout, et c'était à l'époque de la restauration, donc là, l'arrivée de la restauration des milieux en région méditerranéenne, l'une des espèces passe-partout qui résistait le mieux même si elle n'arrivait à un certain moment et coince, qui arrivait le mieux à tenir le coup dans les caillasses, dans les mauvais terrains du midi quand il fait sec. Donc, on s'est dit, tiens, c'est bon, on va l'utiliser. En réalité, à cette époque-là, les seules graines d'Achillée qu'il y avait, elles venaient d'Australie. On est loin, on est vraiment dans la logique d'espèces sauvages, d'espèces locales, mais loin d'une notion de semences locales. Donc on s'est dit, oh là là, il va falloir la produire, puisqu'on a commencé par la produire, si je ne me trompe pas, à partir d'espèces, à partir de semences qui étaient toujours australiennes. Donc là, il y a un décalage. Et puis au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le coût de production des semences françaises était tel que finalement, retour à la case départ, des semences australiennes. Je passe quand même sous vos contrôles doubles.
Nouvelle-Zélande,
autant pour moi. Donc, coincé. Alors, se pose quand même la question à ce moment-là, se dire, est-ce que c'est si grave, docteur? Moi, je ne sais pas répondre à cette question, je vous préviens d'avance. Est-ce que c'est si grave, docteur, d'avoir fait des choses aussi terribles? C'est-à-dire faire venir des graines, et ça continue. Ne nous en cachons pas. Quand on parle des graines qui sont dans les mélanges, les mélanges Novaflore, Phytocène ou Zygène avec de l'Achillée dans les mélanges de Jachère fleurie, c'est pas des graines à ma connaissance, je me trompe peut-être, dont les semences qui viennent des cotypes locaux. Non, ce sont des graines qui viennent d'ailleurs. Mais est-ce que c'est grave, docteur? Je n'en sais rien. Parce que là-haut, il y a je ne vous ferai pas le nom du volcan islandais, mais il se passe des choses dans l'atmosphère. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, les flux de pollen, les flux de graines, et ainsi de suite. Il y a un camarade de fac... de John a bossé sur qui travaille avec John a bossé sur l'immortel des sables. Je l'ai rappelé hier, je lui ai dit, est-ce que c'était bien comme ça s'était passé? Oh, oui, c'est ça. Il avait dire sur l'immortel des sables, il avait des différences plus fortes. Par exemple, il avait travaillé sur les populations du Larzac, des populations à 7, populations à Carnon. Il trouvait des différences phénotypique, plus grande entre les deux populations littorales que avec les populations qui étaient sur le Larzac. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est à l'échelle, vous voyez, à une échelle locale. Donc là, à partir de ce moment-là, les notions de variabilité des cotypes, moi j'en sais rien, je peux pas répondre. Et de toute façon, il faudrait le faire sur toutes les espèces. Et là, je reviens à l'histoire du groupe de travail du groupe de travail de Nantes. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord à l'époque pour fournir une filière économique. Sauf que quand on a commencé à interroger les pépiniéristes, ils disaient oh, mais attendez, vous êtes bien gentils, mais tant que j'ai pas le marché, je ferai pas. Donc c'est l'œuf et la poule. Là, c'est qui commence, quoi, en gros. Et là, il y en a un qui a levé le doigt. C'était l'agglomération de Saumur. Qu'a dit moi, c'était Monsieur Pascal Lègle, j'y rends hommage, qui a levé le doigt et qui a dit, moi, j'ai l'aménagement du Touet, donc c'est une rivière qui est un affluent de la Loire ou du Maine, je ne sais plus. Moi, je veux bien essayer. Je veux bien essayer de lancer une filière de végétaux locaux, de m'y mettre, de me coller là-dessus pendant 3 ans. On met en place une pépinière expérimentale. Il a souffert, le brave homme. Il a souffert, mais quand même, il a bossé avec le Conservatoire botanique de Brest et il a travaillé sur quelques espèces et ils se sont posé une énorme question. Et là, on arrive sur la notion de végétal local maintenant, c'est comment on acquiert la ressource pour pouvoir après produire des végétales locales, de la semence locale et ainsi de suite. Et là, dans ce que vous avez exposé, obligatoirement, et dans les questions que vous allez avoir à vous poser, et probablement dans les questions que se sont posées les gens du Conservatoire botanique des Pyrénées, il y a cette question-là, on revient au maillage.
Plus la question de, dès lors qu'on multiplie, on sélectionne.
Exactement.
Et on perd le...
Voilà. Donc là, on est complètement dedans. Alors, je ne sais pas, Plantécité, où vous en êtes, puisque le travail qui a été lancé sur Saumur a dû glisser après sur Plantécité.
Oui, tout à fait. Ouais. On a travaillé sur le frêne, là on est sur les ligneux. Donc,
oui, il y avait frêne, il y avait saule, je ne me souviens plus exactement.
La France Carrière, c'est le CNRS de Paris, donc on est quand même arrivé à ramener des chercheurs sur cette expérience assez originale. Sur le frêne, la démarche végétaux d'origine locale est vraiment intéressante, parce qu'on est à une zone où on est sur un groupe d'espèces et on est plutôt sur un hybride. C'est-à-dire que naturellement, il y a un hybride qui est en train de se faire entre Fraximus excelsior et Fraximus angustifolia. Sachant que si on suit la législation des pépinières au niveau forestier, si on veut du frêne angustifolia, il vient du sud-est de la France, et du frêne excelsior, il vient vraiment du nord. Donc il y a des chercheurs à Paris, le CNRS qui travaillent là-dessus. On a creusé et mis en valeur l'exemple du frêne, parce que c'est un exemple assez clé qui montre un territoire et les notions même d'espèces, du coup, peuvent être mises en question, en tout cas pour les ligneux, pour les herbacées, on en sait encore moins. Mais du coup, là en bon, après, on se pose des questions d'adaptation au changement climatique, écotique, toutes ces questions-là. En tout cas, on a valorisé l'an dernier, on a fait une étude qui s'appelle Restogène, restauration des habitats.
Et là, justement, on arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Vous voyez, le végétal local ou la semence locale arrive très très tard dans ce que je vous raconte, parce que est-ce que vous êtes en train de me dire, ça me conforte. C'est un fil d'Ariane, finalement. On tire, et on ne sait plus où on s'arrête. Je reviens à la notion de maillage. Or, et c'est là où je pense, et c'est une question de fond qu'il faut se poser, parce qu'il y a une réalité également économique. Je vous dis, il y a 4 semenciers ici, c'est pas par hasard. C'est cette notion, l'équilibre entre le vouloir et le pouvoir. Et le risque de refaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, attention, quand je dis ça. Mais le risque de repartir à chaque fois à zéro, et de, finalement de se reposer, il faudrait qu'on réfléchisse à cela. Et puis que finalement, se reposer toujours les mêmes questions, et qu'à un certain moment, on soit toujours à la case départ. Je vais vous donner un tout autre exemple, c'est l'exemple, alors, Jeanne, t'as dit invasive plutôt qu'envahissante, alors j'ai utilisé le terme d'invasive. L'exemple des espèces invasives. Je reviens à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, pareil, j'ai bossé pour eux à un certain moment, sur les espèces invasives, donc notamment la jussie, la renouée, mazette. Donc justement pour essayer de voir comment on pourrait lutter efficacement. Qu'est-ce que j'ai constaté là-dedans? C'est que des groupes de travail, il y en a plein. C'est que des diagnostics, il y en a plein. C'est que je vais être méchant, mais c'est que j'ai eu l'impression, en faisant tout cela, les gens ne savaient pas combien ils dépensaient à la lutte contre leurs espèces, toutes ces choses-là. Alors que des départements engouffraient beaucoup d'argent. Et je vais être méchant parce que j'ai eu l'impression que certains organismes, finalement, d'une certaine façon, se faisaient du beurre sur ces sujets-là, en disant il faut qu'on fasse des études. Et puis les études amenaient d'autres études. Il faut faire des diagnostics. Mais quand est-ce que vous allez nous proposer les méthodes de gestion? Non, mais il faut d'abord faire les diagnostics. Et pendant ce temps-là, il se passe des choses. Pendant ce temps-là, les invasives continuent à envahir. Actuellement, je suis sur l'autoroute A89. L'autoroute A89 dans la région de Lyon. Deux espèces, l'ambroisie et la renouée, particulièrement importante au niveau de l'Asie. L'ambroisie, on arrivera à la régler, ça va. La renouée, gros problème. Et quand on regarde, et ça fait 15 ans, 20 ans, que les gens font des diagnostics, mais quand on leur demande comment il faut faire, ah ben non, attendez, on va faire des essais. Eh oh, on est en train d'ouvrir une autoroute et on franchit des cours d'eau. Comment on doit faire? Eh bien, résultat des courses, chacun, à ce moment-là, essaie de se débrouiller dans son coin. Et là, parce que, finalement, il n'y a pas eu de solutions qui ont été apportées, ou bien parce que, finalement, c'est parce qu'on voulait être trop puriste qu'on n'apporte pas les solutions de base. Je reviens toujours sur les invasives. La jussie, il faut aller voir le diagnostic et ainsi de suite pour pouvoir lutter ensuite. Il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisine de Jupiter se rendre compte que la jussie, si on la dire, elle est très très agressive, qu'il faut donc la choper le plus vite possible avec quelques techniques qui ne sont pas infaillibles mais qui permettront de ne pas, pas provoquer des catastrophes. Bien même ça, j'ai eu du mal à leur accepter de faire une fiche d'action, et quand j'ai eu le dos tourné, la fiche d'action a été jetée à la poubelle. Vous comprenez? Donc c'est ce décalage, justement, où plutôt que vouloir faire les choses nickel-chrome à 110%, accepter qu'elles soient peut-être qu'à 80 ou à 70, mais on aura au moins sauvé ces 70%-là. Voilà. Je crois que j'ai à vous dire que je vais vous dire.
Je vais intervenir et je félicite Hervé qui a eu un discours et des propos tout à fait justes et pertinents et pragmatiques. Je suis